Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast de l'actualité des Phoenix Suns. Là, comme ça, vous avez l'impression que je suis de super humeur et pourtant, on va aborder la saison des Phoenix Suns et qui finit un petit peu en loup de boudin avec cette défaite contre les Wolves. Et pour aborder cette saison qui est finie, donc, j'ai avec moi deux personnes et notamment le taulier de Valley Hoop, Hicham. Comment ça va?
Eh bien, écoute, ça va très bien, merci. Merci, merci. Et puis, super content de vite passer à notre invité qu'on aime toujours chaque année pouvoir recevoir et je vais te laisser introduire la troisième personne.
Ouais, c'est mon premier pod Valley Hoop en compagnie d'Alex de Trash Talk, mais Alex, t'es un habitué de Valley Hoop, tu viens au moins une fois par saison si je me trompe pas. Comment ça va, Alex?
Hello, ouais, ça va moyen, on va pas se mentir, hein. Dès que ça parle des Suns, moi ça me replonge dans cette saison dont la saison régulière en elle-même, je sais pas trop quoi en penser, enfin si, mais je veux dire, elle est bizarre, ouais. Et les playoffs sont affreux, ouais. Mais oui, c'est toujours un plaisir de venir tchatcher des cactus dans Valley Hoop, donc voilà, on va pouvoir disséquer tout ça. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo qu'on a faite à chaud, avec Bastien.
Si, bien sûr, ouais.
Je vais être un peu moins vénère, évidemment, aujourd'hui. Là, j'étais à chaud, j'étais en lendemain de sweep. Bastien, il me dit, viens, on fait un react et tout. Je fais, attends, t'es sûr? T'es sûr qu'on réagit tout de suite, là? Ouais, depuis, Bastien, j'ai mis un peu d'eau. Ouais, voilà, il aime le sang. Ouais. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin et puis j'ai pris le temps d'analyser, d'écouter Matij Bia faire des magnifiques déclarations. J'imagine que vous aussi.
Ah, ouais. Ça m'a rendu fou, ouais.
Voilà. Donc, voilà, je suis prêt. Allez-y, envoyez la sauce.
Super. Au programme de ce Valley Hoop, sentiment général après la défaite au premier tour des playoffs 2024 face aux Wolves. On va revenir un petit peu sur la série et sur ce que ça nous a laissé dans la tête. On va revenir aussi sur le goût amer que nous laisse la saison 2023-2024 de manière générale. Et puis, on va essayer d'aborder rapidement, parce qu'on a pour l'instant pas trop d'infos, on en a quelques-unes, mais pas des masses, ce qui devrait être la saison prochaine des Suns 2024-2025, avec évidemment l'ensemble des tours de draft qu'il nous reste et un capital de recrues incroyable. Valley Hoop, c'est parti après un petit générique. Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took. Wet like on book. Raising up. Deep three on the way. Durant goes. Boom. That is just. Oh. De retour dans Valley Hoop, les gars, j'espère que vous avez accroché vos ceintures. On va revenir sur la défaite 4-0 sweep Tony Truant des Suns face aux Wolves. Une défaite en 4 temps, les deux matchs à Minnesota, on les a perdus la queue basse. Pareil pour les matchs à domicile, du mal à voir beaucoup de choses hein, dans cette série, mais une chose qui a retenu mon attention, c'est que ça a été une série à sens unique. Alex, est-ce que tu as aussi eu cette sensation?
Ah oui, complètement. Sens unique total, du premier match à la fin. On a parfois trouvé le moyen de pas trop mal résister, de rester dans leur roue au scoring. Mais à chaque fois qu'il a fallu appuyer sur l'accélérateur, mettre le coup de pression qui fait mal à l'adversaire, Minnesota a réussi à mettre Phoenix la tête sous l'eau et Phoenix n'a jamais trouvé de quoi respirer. Même le match 2, si je ne dis pas de bêtises, où Anthony Edwards est beaucoup moins performant, Minnesota le gagne. Sans qu'il y ait trop de discussion. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'avais vu le match 1, je m'étais dit bon, c'était un mauvais match, mais ils ont eu un Anthony Edwards en feu. Donc, je m'étais dit, certainement naïvement, il ne va pas être en feu comme ça tout le temps. Et quand il ne va pas être en feu comme ça, on a les moyens de les faire parler, si j'ose dire ainsi, tu vois. Je vérifie en même temps que je vous parle les stats. Ouais, c'est ça. C'est le match 2. Le
je
match
crois qu'il
2,
fait 8 points, non?
Il est 15 points à 3 points, sur 12 au tir. À 3 sur 12 au tir.
Ouais.
C'est normalement un match que Phoenix doit prendre. Phoenix met 93 points dans ce match. Voilà. 93 points. Donc ouais. 93 points, je sais, les Wolves défendent super bien. Hein. Mais bon, c'est nul. C'est nul et pour des raisons sur lesquelles vous avez, j'imagine, envie de revenir, mouvement de balle fait pitié.
Ouais.
Les choix des joueurs, au-delà même du mouvement de balle collectif, les choix des joueurs à titre individuel, c'est pas ouf, ça manque d'agressivité. Du coup, bah, par voie de conséquence, tu te retrouves avec des shoots plus difficiles et donc moins d'adresse. Pour moi, c'est des choses qui vont ensemble.
Oui, oui, clairement.
Donc, on va parler, j'imagine, de la défense ensemble, Grégoire et Cham, j'imagine, mais elle n'est pas si mauvaise, la défense des Suns. Sur la fin de saison, elle avait été, à mon sens, un poil meilleure et plutôt rassurante, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, on était là dans les 10, 12 défenses, les meilleures défenses de fin de saison en rating. Et donc, tu pouvais te dire que les Suns, avec les individualités offensives qu'ils ont, un peu de mouvement de balle, et en fait, t'es dangereux tout de suite. D'ailleurs, moi, j'y croyais. Hein. Moi, je croyais qu'on allait faire...
Mais tout le monde y croyait.
On allait faire chier les Wolves, vraiment.
Tout le monde y croyait. Les pronostics étaient vraiment favorables aux Suns. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un sweep qui prend à revers l'ensemble des pronostics. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le tour de toutes les vidéos, previews de séries, etc., machin. J'ai regardé vraiment... J'avais fait un thread là-dessus. J'ai regardé vraiment une tonne de vidéos et écouté de podcasts sur la série. Il y a, je pense, sur une vingtaine de previews écoutées, regardées et lues, il doit y avoir en tout 4 personnes qui avaient pronostiqué les Bulls. Et c'était du 4-3, c'était pas du 4-0.
Et pour moi, il y a deux grandes faillites. Il y a la préparation tactique offensive et le mental.
Ouais.
La préparation tactique offensive, vraiment, c'est un scandale. Genre, Rudy Gobert s'est beaucoup trop baladé dans cette série, et je l'adore, mon Rudy, mais là, il s'est beaucoup trop baladé. C'était trop facile pour lui.
Ouais.
Comment ça, on sort pas Rudy Gobert sur pick and roll, on sort pas de sa zone de confort, tu vois. Rien que ça, moi, ça m'a choqué. Hein. Et alors après, il y a plein d'autres petits détails, hein, mais on avait les moyens de mettre beaucoup plus en difficulté cette magnifique défense des Wolves. Je dis pas qu'on aurait forcément gagné la série, moi, je pense que j'avais sous-estimé les Wolves, honnêtement.
Oui, on a été
au-delà
nombreux.
Au-delà du manque d'objectivité en tant que fan des Suns, mais je pense que j'avais sous-estimé. D'ailleurs, du coup, je les ai pronostiqués vainqueurs face aux Nuggets. Là, je les ai peut-être surestimés, on va voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont impressionné aussi. Il faut rendre hommage à l'adversaire. Hein. L'adversaire est arrivé, préparé, en forme, physique. Physiquement, ils ont fait très très mal. Mentalement, ils ont fait très très mal. Offensivement, ils ont trouvé plein d'alternatives qu'on leur connaissait pas forcément ou qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est une grande série des Wolves et c'est une toute petite série des Suns.
Ouais. C'est tout à fait ça, ouais, 4-0 du coup, ouais, c'est ça. Est-ce que Hicham, t'as eu aussi cette impression que les Wolves nous roulaient dessus littéralement sur tous les compartiments du jeu et que Frank Vogel se faisait out-coach par Chris Finch?
Oh bah ouais, complètement. Même les premières mi-temps des matchs qui étaient généralement plus serrés que les deuxièmes mi-temps, on sentait déjà que le bas blessait à pas mal de niveaux et que on tenait un petit peu sur un fil. Et systématiquement, au deuxième mi-temps, on s'est pris des roustes monumentales des deux côtés du terrain. On sentait qu'il y avait une vraie différence de dynamisme. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué sur la série. J'ai l'impression, un milliard de trucs à dire sur ce qui allait pas ou fondamentalement par rapport à l'équipe, au style de jeu de l'équipe, des joueurs, du coaching, etc. Mais une chose qui me marque, moi, particulièrement, c'est la différence de dynamisme, de qualité athlétique et d'envie, de force mentale. Donc, vraiment, il y a eu un gros gap entre des Suns qui faisaient vieux, un peu, et des Wolves, bon, bah, forcément, qui faisaient bien plus jeunes. Alors, ce qui est le cas, effectivement, concrètement, c'est une équipe, je pense, un peu plus jeune. J'ai pas vu les stats, mais... Vu les cadres, je pense qu'il y a une vraie différence.
C'est une équipe plus jeune, mais tu parles surtout de fraîcheur, en fait, une sorte de mordant.
Ouais, mordant, fraîcheur et envie de prouver. Et puis profil, chez les Wolves, voilà, des profils athlétiques comme Anthony Edwards, comme Jaden McDaniels, ou même Nickel Alexander Walker. On n'a pas ce genre de profil. Chez les Suns, il n'y a pas vraiment ça, et la NBA raffole de ces profils-là, les équipes NBA raffolent ces profils-là, capables de faire un peu tout des deux côtés du terrain et capables d'apporter une vraie dimension athlétique. C'est une des choses qui me fait le plus peur pour la suite, et on en parlera, mais en tout cas sur cette série de playoffs, clairement c'est ce qui m'a marqué, c'est voilà, le volet mental. On n'était pas dedans. Mentalement, on n'a pas été au niveau. Et vraiment, la différence de mordant et de qualité physique et athlétique, grosso modo.
J'ai, J'ai une petite question pour vous, les gars. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a manqué à ces Suns? Moi, ma piste principale, c'est de la cohésion entre les dispositifs tactiques de la saison développés par Kevin Young et Frank Vogel, quand bien même tout ne soit pas parfait, et la volonté des cadres de les appliquer. On a eu cette confirmation après, mais moi, vraiment, en regardant les matchs et en ayant quelques chiffres à côté, par exemple le point par possession sur les pick and roll qui était très élevé quand c'était Booker qui avait la balle, et finalement, peu voir pendant le match des pick and roll lancés par Devin Booker. C'était hyper frustrant pour moi. Et tu le disais, Alex, hein, faire sortir Gobert de sa boîte en lançant des pick and roll très haut, etc., avec Nurkic ou des pistoles, des end-offs, ce genre de système entre Booker et Nurkic qui ont bien marché pendant la saison. On n'en a quasiment pas vu sur cette série. En plus, ils ont été très bien défendus. Mais au-delà de cette rupture qu'on sait aujourd'hui entre le coaching staff et les cadres, les leaders du groupe, en tout cas du côté offensif, est-ce que vous, il y a un truc qui vous a sauté aux yeux ou vous pensez que c'est la raison principale pour laquelle les Suns ont échoué sur cette campagne de play-off?
Tu veux dire, tu parles de la raison tactique ou de la raison mentale là?
Pour moi, c'est les deux quoi. Les deux sont dans la question, c'est-à-dire que tu as vraiment des dispositifs tactiques qui sont développés, qui provoquent des points pour le coup, qui produisent du point, mais on sent que pour une raison ou pour une autre, alors ça peut être le défi physique et athlétique dont parlait Hicham, lancé par les Wolves à la tête de nos leaders et notamment de Devin Booker qui s'est fait quand même bien suivre à la trace par un des plus beaux athlètes de la ligue et des meilleurs défenseurs de cette ligue, Jaden McDaniels. Mais ça peut être aussi juste le fait que le vestiaire n'ait pas été acquis à la cause de Frank Vogel et que donc sur les ajustements et sur la proposition tactique sur le terrain, notamment en attaque, on n'ait pas été au niveau parce qu'on n'avait pas de plan. On avait juste un plan de hero ball entre Kevin Durant en fadeaway jumper mi-distance et à peu près la même chose de Devin Booker.
Pour moi, c'est principal. Avant même d'être tactique, il y a un vrai sujet tactique, hein, mais avant même d'être tactique, c'est principalement mental et je dirais plutôt dans la mentalité. C'est-à-dire que je pense que Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, tout ça, ils se sont vus trop beaux. Ils se sont vus beaucoup trop beaux. Ils se croient beaucoup plus talentueux qu'ils le sont réellement par rapport aux autres joueurs de la ligue. Je veux dire, on est en NBA, quoi. ouais. Je veux dire, ça va. J'adore Devin Booker. C'est un joueur magnifique, incroyable. Est-ce qu'il est plus fort qu'Anthony Edwards? Honnêtement, est-ce qu'il est plus fort que Jason Tatum? Je sais pas. Est-ce qu'il est plus fort que Tyrese Haliburton, que Jalen Brunson, que tu vois ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, ouais. À un moment donné.
Ouais, ouais.
Moi, je le trouve magnifique à voir jouer. C'est un joueur incroyable. Il a fait des perfs. Notamment sur sa première campagne de play-off où il a débarqué en play-off, il a fait « Ok, bonjour les gars, j'ai le niveau. »
Ouais.
Mais là, il n'a pas le droit de faire une série aussi mauvaise, même s'il y a Jaden McDaniels sur lui. Il n'a pas le droit. C'est impossible, en fait. Vraiment, c'est pas possible. Il n'a rien proposé dans l'adversité. Moi, ce qui m'a rendu très triste sur cette série, c'est ça, en fait. C'est que dans l'adversité, ces joueurs... qui certainement la préparation tactique, il y a quelque chose avec le coach, qui les joueurs sont pas acquis à sa cause ou ils l'ont lâché en cours de route et tout. Bon, j'en ai un peu ras-le-bol, je vous avoue, de tous ces joueurs qui lâchent leur coach en cours de route quand ça leur convient pas et tout. Moi, ça commence vraiment, que ce soit au Suns ou ailleurs, hein, là pour le coup, ouais, c'est valable ailleurs dans la ligue. Hein. C'est un peu relou parce que je crois pas une seule seconde que Frank Vogel ait été nommé coach des Suns il y a un an sans que Devin Booker et Kevin Durant aient validé cette nomination. Je n'y crois pas une seconde. C'est impossible. Donc, à un moment donné, tu valides la nomination d'un coach et après, tu n'es pas acquis à sa cause et tu ne montes pas l'exemple dans le vestiaire. Ah, désolé, ça, ce n'est pas une bonne mentalité. Et c'est une mentalité qui ne mène nulle part. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, pour la suite. C'est que là, ce qu'on a vu, c'est que Devin Booker, non seulement il est pris dans un gros défenseur, Kevin Durant, bien défendu également aussi, hein, des bonnes aides et tout, très malin sur Kevin Durant, ce qu'ils ont fait. Ils avaient choisi de laisser un peu plus de liberté à Bradley Beal, c'était le bon choix, il n'en a rien fait. Aucun des joueurs, qui sont des joueurs d'expérience, tous maintenant, avec beaucoup de talent, s'est dit « Attends, je vais demander à Nurkic de m'amener Gobert à 8 mètres du panier, plein axe, là où tu as le pick and roll avec le plus d'espace, et je vais les jouer, moi. » Aucun des mecs s'est dit de faire ça. C'est pas normal, en fait. Et c'est pas que le coach, ça. Hein. Que le coach le demande et que les joueurs ne veuillent pas le faire, c'est scandaleux. Si le coach l'a pas demandé, bah, c'est-à-dire qu'il est pas bon. Si moi je le vois, le coach doit le voir, hein, faut pas exagérer non plus.
Ouais, c'est clair.
Que les joueurs n'y pensent pas, en cours de match à la limite, pourquoi pas, mais du match 1 au match 2, moi j'étais très déçu dès le match 2, quand j'ai vu que ça continuait pareil, en fait. On allait réattaquer pareil, en fait.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais pas vous, les gars, mais moi, entre le match 1, que tu te fasses niquer au match 1 à Minnesota, en feu, Anthony Edwards, le feu, troisième quart et tout, franchement, ça, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. En revanche, je pense que les Mavs, les Nuggets, le Thunder, évidemment, même les Lakers ou des équipes comme ça, ou les Clippers, seraient arrivés au match 2 et auraient posé des problèmes à cette défense des Wolves. Ça n'a pas été le cas des Suns.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense qu'il y a une non-faculté d'ajustement dans la tête de nos leaders. Les mecs ne veulent pas comprendre où ils doivent jouer pour que ce soit performant.
Un pick-up game.
Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as l'impression, on en a parlé plusieurs fois dans Valley Hoop cette saison, mais tu as l'impression qu'ils n'ont pas une mentalité NBA. Tu as l'impression qu'ils sont à Rucker Park. Et qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est rentrer leur panier comme si ça comptait pas au final. En tout cas, c'est l'impression que moi m'a laissé cette série. C'est que j'avais pas l'impression que les Suns étaient là pour jouer un match NBA. J'avais l'impression que c'était un pick-up game, effectivement, comme tu dis, Alex. Et que l'objectif, c'était rentrer des paniers. Et en fait, tous les paniers voient 2 points. Et on cherche pas à avoir des 3. On cherche pas à agresser le cercle. Et sur les 4 matchs, on a exactement le même plan de jeu et ça rend fou, quoi. Ça rend vraiment...
Donc, c'est vite coucouche panier, quoi. C'est-à-dire ouais, que très, très vite, les Wolves ont mis la pression, ils ont bien défendu, et puis bah, les Suns ont baissé les bras. Et ça, en tant que fan, c'est décevant. En tant qu'observateur, c'est inquiétant.
Oui, clairement. Clairement,
je te rejoins. On va dire quelque chose aussi. Ouais, je vais rajouter un truc quand même.
J'allais te lancer. Vas-y.
Ouais, franchement, on va pas se mentir, les gars. Moi, ça me fait mal au cœur d'avoir à dire ça, mais appelons un chat un chat. On est soft de ouf. On est soft de ouf.
C'est sûr que comparé aux Wolves, on est vraiment, vraiment très, très soft. Et on a tradé DeAndre Ayton pour être encore plus soft que quand il était là.
On est vraiment soft. Regardez, plusieurs points. La première chose, c'est le leadership. On en a parlé. Il n'y en a pas. On aurait dû écouter Sir Charles. On l'a critiqué quand il a commencé à gazer sur le leadership de KD en disant « Ouais, t'aimes pas les Suns, tu craches toujours dans la soupe, etc. etc. » Et finalement, non, mais il avait raison. On le voit. Il y a clairement, au niveau de la mentalité, tu l'as dit Alex, il y a un truc qui va pas. Ces mecs-là semblent vraiment être soft. Soft au sens où tu les bouscules, soit ils rouspètent auprès des arbitres et puis ils ont voilà un temps de retard, ils vont baisser la tête ou tu sens que ça va vraiment les affecter au niveau de leur implication et dans leur jeu. Soft au sens où t'es mené d'abord 1-0 puis 2-0 contre une équipe contre qui t'étais censé être un adversaire redoutable, hein, un bon match-up pour nous. Et finalement, rien de tout ça, on n'a pas cessé de se faire bousculer. Et il n'y a pas eu vraiment de réaction jusqu'au dernier match où, bon, oui, Booker et KD ont été au niveau qu'on leur présageait au départ. Mais ça n'a pas suffi parce que, tout simplement, ça a été le fruit de cette longue saison, puis de ces playoffs, sans véritable force mentale, sans rage, sans... Même ça, c'est pas venu du coach non plus. Moi, je suis pas un défenseur, un admirateur de Frank Vogel. Hein. Grégoire et Rod le savent. Je suis pas du tout fan de l'individu et en tant que meneur d'homme, je trouve qu'il semble manquer singulièrement de charisme et de leadership en tant que coach. Et puis après, d'un point de vue gestion tactique et gestion des rotations, pas fan du tout. Donc lui, pour moi, il fait clairement partie des coupables. Mais les joueurs sont pas exempts de tout reproche non plus. Loin de là. Loin de là. Et pour moi, donc, en un mot, c'est soft. C'est soft. Et si on veut aller plus loin, si on veut espérer quelque chose, et je pense que ça va être très compliqué... Et il va falloir s'armer de joueurs qui sont capables d'allumer un feu, un feu sous le siège de KD, de Book. Ces mecs-là sont des très bons joueurs, des All-NBA ou Fringe All-NBA Teamers, mais pour moi, il n'y en a pas un qui sort du lot comme étant véritablement une tête de wagon. C'est moi, je vous montre la voie, vous me suivez, et puis c'est moi qui vais faire, qui vais être voilà, la tête d'affiche et qui fait peur à l'équipe en face. C'est moi le Kobe, c'est moi le... Alors oui, les plus grands noms, Kobe, Jordan, LeBron, etc. Mais même sans arriver à ces niveaux-là, c'est moi le, je sais pas...
Anthony Edwards.
Ouais. Oh, Anthony Edwards a montré ça. Anthony Edwards, c'est un joueur.
Justement, c'est pour
moi,
ça que
je suis fan de NBA depuis peu. Je regarde la NBA depuis peu. Je tombe sur Anthony Edwards. J'adore ce gars. J'adore ce gars.
Ah, bien sûr. Comment ne pas l'aimer, c'est très compliqué.
Ce qu'il apporte des deux côtés du terrain. Book apporte surtout d'un côté du terrain, puisqu'il a régressé défensivement pour moi cette saison par rapport à, aux saisons passées où il avait montré de meilleures dispositions. Et là, il est repassé à un niveau de défense que je qualifierais de médiocre. Repassé de moyen à médiocre. Anthony Edwards, non. Il a déjà les qualités athlétiques et les dimensions et la longueur de bras et la niaque, la hargne pour vraiment s'imposer sur le plan défensif par rapport à un joueur comme Booker qui est un peu plus limité. Mais même au niveau mental, tu sens que voilà, il y a des joueurs qui veulent et d'autres qui sont un peu, comme disait Alex, très justement, dans une forme de complaisance, dans une forme de... On est au-dessus du lot, on est reconnu comme étant parmi les meilleurs de la ligue, les meilleurs à notre poste, on est des Olympians, on est des ceci, des cela, et puis on n'est plus dans la réalité concrète du terrain, où tu as en face des équipes qui ont envie de te rentrer dedans, qui ont envie de te mettre des uppercuts, et qui ont envie de te sécher, et on vient de se faire sécher par les Wolves, et je pense que c'est pas prêt de s'inverser s'il n'y a pas quelque chose de radical qui est fait au niveau du leadership, au niveau de l'équipe, vraiment des joueurs, et au niveau du coach. Donc il va falloir changer de ces deux côtés.
Ouais. Pourtant, ce que tu décris, c'est quelque chose qu'on connaît au Suns, et notamment avec la génération de Devin Booker, parce que honnêtement, la mentalité qui a été développée à partir de la bulle, et puis sur 2021, pour accéder au final, on a ce, disons, ce mordant, cette agressivité, cette fraîcheur, et aussi ce côté un peu plus, je vais prouver quoi, je vais prouver à la ligue qu'en fait on n'est pas une équipe.
Ouais,
de
on l'avait il y a 3 ans. Quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on l'a perdu. Et c'est vrai que sur cette saison, on le perd de manière assez grande. Alors, on va revenir après une petite pastille musicale sur cette saison 2023-2024 parce qu'elle nous laisse clairement un petit goût amer. On va en discuter tout de suite après une petite pause. Alors les gars, je vais vous lancer sur le bilan plus général de la saison 2023-2024. Moi, j'aimerais aborder avec vous plusieurs choses. Alors, on a pas mal parlé du leadership. Je pense que pas trop besoin de revenir dessus parce que de toute manière, on en a parlé dans des précédents podcasts et puis on a fait quasiment l'intro là-dessus en filigrane. Par contre, on a quelque chose qui est pour moi est manifeste cette saison, c'est le peu de minutes que le trio a joué ensemble et de manière générale que l'effectif a collé ensemble avec Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant sur le terrain. Moi, je voudrais savoir à quel point vous pesez l'impact des absences dans le résultat de la saison, play-off compris. Alex, je te lance.
Bof. C'est toujours difficile à quantifier, hein, évidemment. C'est sûr que le Big Three, notamment, n'a pas du tout joué assez ensemble, hein, toute la régulière. On l'a vu, hein, il n'a pas du tout joué assez ensemble pour créer des automatismes, travailler tactiquement et tout. Après, moi, j'y ai un peu cru en fin de saison. En fin de saison, on s'est dit qu'il y avait une dynamique positive. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais moi, je trouvais qu'en fin de saison, on se disait « Ah, tiens, il y a des choses qui se passent, Bradley Beal. »
Sur les 15 derniers matchs.
Il commence à voir l'intérêt, il essaie de pénétrer, de driver. C'est assez complémentaire avec le jeu de Kevin Durant et tout. Ça fonctionne bien, il tient bien la balle. On reconnaissait un petit peu le Bradley Beal qui avait été All-Star. C'est sûr que ce Big Three a manqué de temps ensemble pour travailler les automatismes. En revanche, ça aurait pu les aider un peu tactiquement. Ça aurait pu aider Frank Vogel aussi à mettre des choses en place. En revanche, je ne pense pas que ça leur aurait changé tellement la mentalité, le fond de la mentalité. Je pense que malheureusement, je sais que ça va être sévère, hein, ce que je veux dire. Aucun de ces trois joueurs n'est un vrai franchise player, en fait. Dans l'âme, dans la tête.
Ouais.
Désolé, Devin Booker. J'ai voulu y croire à plein de reprises, hein, mais je pense que c'est un peu juston en termes de caractère, en fait. Et que ça, malheureusement... Après, c'est vrai que si tu joues mieux et que tactiquement, tout se passe mieux, peut-être tout de suite, c'est plus facile mentalement, mais je pense pas qu'on puisse mettre tant que ça, en fait, sur les blessures de la régulière, en fait. Pas tant que ça, en fait. Un peu, sûrement, mais je pense pas que ça aurait tant changé que ça, notre fin de saison et nos playoffs.
Alors, ce qui est incroyable, et je vais te lancer là-dessus, Hicham, c'est que Devin Booker, jusqu'au All-Star Game, le niveau est quand même très haut. Sur le début de saison et jusqu'à la fin du mois de janvier, on parle de Devin Booker dans les discussions MVP. Alors, peut-être pas dans les trois premiers, mais en tout cas, il est au moins dans le top 5, top 6 de ceux qui sont dans la course au MVP. Il est Player of the Month du mois de janvier. Il est au sommet de son art, il est absolument inarrêtable, il fait énormément d'efforts, il fait des gros matchs au passing, il fait aussi des gros matchs au scoring. Et puis après ce All-Star Game, il se passe un truc, on perd Devin Booker dans l'intensité, dans le leadership, et puis de manière générale on a un joueur qui n'est plus du tout le même, on a l'impression de voir une autre personne sur le terrain. On redécouvre un petit peu Bradley Beal qu'on avait eu par touche pendant la saison et qui n'était pas forcément convenable, mais qui sur la fin de saison, en devenant un role player élite, et on reviendra un peu là-dessus je pense après, réussit, alors c'est mon avis, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais à nous qualifier directement en playoff. Moi je mets Bradley Beal comme responsable de notre qualification en direct en playoff, avec évidemment le petit coup de pouce des Pelicans. Mais je voudrais savoir comment toi, tu as vécu ce changement de dimension entre la première partie de saison, les deux premiers tiers de saison de Devin Booker où il est stratosphérique, et l'autre partie après le All-Star Break où il est dans ses chaussettes et jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire y compris pendant la série avec les Wolves, quoi.
Ouais, bah, peut-être que c'est lié au fait qu'il ait pas mal été taxé physiquement sur les premiers mois de la saison avec l'absence de Bradley Beal, avec d'autres absences et... dans la lignée des playoffs qu'il nous avait fait la saison dernière, voilà, où beaucoup lui était demandé, et il a répondu présent, même si j'insiste un peu sur ce point que j'ai déjà évoqué. Moi, je trouve que défensivement, cette saison, il n'a pas été au niveau qu'il a montré certaines des saisons passées, où je l'ai trouvé, on va dire, moyen, voire plutôt même bon sur certaines phases des saisons passées. Cette saison, je n'ai pas vu ça. Et ça fait une grosse différence parce que t'as beau scorer des points, faire des passes et tout, et arriver à limiter un tantinet les pertes de balles, même si au début de saison c'était assez inquiétant de ce côté-là, puis après il s'est un petit peu rattrapé. Mais quand tu produis pas ce qu'il faut, au moins le minimum syndical de l'autre côté du terrain en défense, bah c'est un peu pisser dans un violon, quoi. Donc comment j'explique sa baisse de forme, je pense. Peut-être la taxation physique, peut-être le changement de rôle ou les changements de rôle successifs au cours de saison avec, sans Bill, où voilà, il joue meneur, il shoot moins, et puis après, peut-être on lui demande de redevenir un petit peu ce scoreur, voilà, pas tenté. Moi, je pense que son meilleur rôle à Booker, après les saisons passées, j'ai envie de dire, c'est vraiment son rôle de scoreur. C'est là qu'il est le plus efficace, le plus impactant. Quand il est ce scoreur qui se la donne quand même un minimum en défense. Et je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Je pense qu'il y a aussi un abandon peut-être du coach et de ses choix tactiques et de sa philosophie. Peut-être que les joueurs, au fil de la saison, se sont dit on aime de moins en moins jouer pour ce mec-là et on n'a pas envie de s'investir, parce que c'est pas que Booker, il y a aussi KD qui a montré une baisse de régime à partir du mois de février. Je sais pas, c'est peut-être pas un hasard, même les role-players, tu sens que des mecs comme Eric Gordon sont pas forcément des plus enthousiastes dans cette équipe, en tout cas moins, on dirait, qu'en début de saison, mais là c'est juste de la lecture de langage corporel, rien de plus.
Ouais. C'est pas tangible, mais c'est du ressenti. Et ouais. Enfin, moi, je le partage aussi. J'ai trouvé qu'après le All-Star Break, il y avait des joueurs chez qui c'était manifeste, qu'il y a un désinvestissement, psychologique et mental de l'équipe, quoi. Et je sais pas pourquoi. Bon, vraiment, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé pendant ces vacances.
Mais le, je sens qu'il n'y a pas une adhésion au coach, au coaching staff en général et au head coach en particulier. C'est vraiment le ressenti. Moi, j'ai cette impression vraiment que...
Hicham, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'adhésion entre Booker et Durant?
Bah, en fait, ils ont le même jeu.
Les gars, honnêtement, ils ont le même ça respire pas la camaraderie, le truc, quand même.
Bah, moi, je trouve que c'est une camaraderie molle. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux grands adolescents pâteaux devant moi qui passent leur soirée à faire tout sauf penser au basket. Et quand ils passent au basket, ils y pensent comme s'ils allaient jouer un pick-up game. Ouais, j'ai pas l'impression de voir deux mecs qui sont ensemble pour gagner un titre NBA, tu vois. J'ai pas du tout cette impression-là.
Moi, j'ai pas du tout l'impression qu'ils s'adorent. Je suis pas sûr de ça, en fait. Je suis pas sûr qu'ils se kiffent tant que ça, en fait.
Ouais, c'est possible que ça se passe finalement humainement moins bien que prévu.
Mais non, ça doit pas. Je te dis pas qu'ils se détestent du tout, hein. Mais non, ils sont pas non plus. Comment dire quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis, j'ai pas l'impression non plus, je sais pas comment dire. Comme l'équipe a été montée de toutes pièces l'été dernier. Forcément, c'est normal en même temps, hein, mais je veux dire par là, je sais pas, Nurkic, c'est un bon gars, il a de ses qualités, il a ses défauts, Nurkic. On sait que c'est un bon gars, que c'est un peu un garde du corps, bon gars avec ses coéquipiers et tout. Je sais pas si Grayson Allen, si Eric Gordon, si tous ces gars-là sont vraiment contents, en fait. Je sais pas comment dire.
Ouais, moi, je te rejoins. Je te rejoins aussi.
Je suis pas sûr du groupe.
Ouais. Bah en fait, la question que tu poses, c'est celle de la vie de groupe.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a une vie
de groupe ? Les mecs, ils ont envie de se défoncer les uns pour les autres, quoi.
Parce que quand tu vois une équipe comme les Wolves ou même les Nuggets, quand tu vois Aaron Gordon qui parcourt le monde entier pour aller voir Nikola Jokic dans son pays, dans son haras, avec ses chevaux, clairement, moi, j'imagine pas aujourd'hui Bradley Beal aller chez Devin Booker faire une partie de billard, quoi. Clairement,
et ça se met sur le terrain. Ouais. Les gars, vous l'avez tous vu comme moi. Le game winner de Jamal Murray, le premier des deux. oui, non, parce que voilà. Vous avez vu ce que fait Jokic ? Jokic, il se transforme en chien de berger pour diriger toute l'équipe pour que son poteau Jamal Murray
prenne
il
le shoot,
ait exactement l'espace qu'il kiffe sur sa droite, le quart de demi-terrain, là, le demi-terrain, vous voyez ce que je veux dire, côté droit, là, pour Murray, pour qu'il le sait. Il y a Kentavious Caldwell-Pope, qui est pourtant pas un joueur qui a pas d'expérience, qui est mal placé. Mais re-regardez les images.
Il
montre du doigt, il lui fait vas-y, va là-bas.
Ah, il dirige la
manœuvre. Il n'y a pas ça au Suns. Il n'y a pas le leader qui se défonce pour le groupe. Il n'y a pas ça.
Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. On a la chance d'avoir Rodolphe qui nous a rejoint. Rod, si tu peux...
Ah, on va enfin avoir des avis pertinents.
si tu captes Rod suffisamment pour nous toucher un mot de ce que tu penses de ça, parce que pour moi, c'est une vraie question que vient de poser Alex. Mm-hmm. C'est une question qui est vachement intéressante. C'est celle de la cohésion de groupe. Alors, il ne s'agit pas forcément de la cohésion de groupe vis-à-vis de... du coaching staff, etc., mais juste du groupe lui-même, quoi. Quelle vie de groupe, quelle impression t'as là-dessus, quoi.
Non, mais c'est effectivement. Alors déjà, bonjour à tous et salut Alex désolé pour ce retard. Moi, je suis un peu folklorique de mon côté au niveau des conditions d'enregistrement. Pour tout vous dire, je suis sur la terrasse d'un Burger King à Rouen, Grand Quevilly. Donc voilà, c'est absolument magnifique. C'est sans doute unique même en France. Donc voilà, on va essayer quand même de faire ce podcast avec vous. En tout cas, de rejoindre le train en marche. Et donc pour répondre à cette question, c'est vraiment une question super pertinente parce que en fait, on en a parlé un peu toute la saison, notamment toute la fin de saison. Au moment où ça a commencé à partir en couille, vous l'avez très bien dit juste avant, Greg et Hicham, sur le fait que l'attitude plus générale du groupe a commencé un peu à partir en couille à ce moment-là après le All-Star Break et on n'a pas compris pourquoi, on n'a pas compris d'où ça venait et on a constaté qu'effectivement il n'y avait pas eu de ressort dans le groupe, que ce soit de la part des leaders ou effectivement dans un espèce d'élan collectif. Donc pour rebondir sur ça, sur l'idée de la vie de groupe, et c'est un élément évidemment fondamental dans une équipe, enfin dans un sport co de toute façon, au basket évidemment, en NBA a fortiori, vu que tu vas jouer quand même 82 matchs dans la saison avec les Gonzes plus une vingtaine après au moins en play-off si tu vas au bout, quoi. Donc tout ça pour dire que cette dynamique collective, je suis complètement d'accord avec vous, on l'a jamais senti cette saison. En tout cas, on a senti peut-être des petits éléments se créer peut-être autour de Nurkic, qui a été vraiment un facteur de solidarité pour le groupe toute la saison. Pareil pour Grayson Allen et tout, mais c'est vrai que même Bill, hein, progressivement, il y a eu des efforts, on va dire, qui ont été faits de ce côté-là de la part des joueurs. Donc c'est même pas spécialement un manque, un truc volontaire. C'est juste que manifestement, on voit bien qu'il y a pas de, il n'y a pas d'esprit de corps qui se dégage de cet effectif. On l'a vu toute la saison. Et on l'a vu évidemment de manière éclatante là, pendant cette parodie de série de playoffs, ce sweep.
Ouais.
Franchement, en fait, on peut s'interroger hein, vraiment. Moi, j'aurais tendance à penser, parce que c'est vraiment un truc qu'on a dit toute la saison et qui est moi pour. Alors, je vais peut-être pas faire un tunnel, mais pour moi, c'est vraiment lié à. En tout cas, un aspect de leadership, c'est-à-dire que si tu n'as pas cette dynamique-là dans le groupe, pas naturellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que j'allais prendre l'exemple des Suns de l'ère précédente. Les Suns de l'ère précédente, je ne pense pas que Chris Paul était un meneur de fou. En fait, je pense qu'il y avait une dynamique collective autour de Michael Bridges, bien sûr, autour de Ayton, autour de Campaign. Il y avait vraiment plein de choses différentes dans le groupe.
Un cœur, ouais. Un cœur
voilà,
de groupe.
Un cœur de groupe et vraiment un côté résonance collective, vraiment. C'est-à-dire que cet esprit de corps où voilà, on va aller tous ensemble au combat à la mine, c'est un truc qui venait du groupe dans son ensemble, on va dire. Mais on peut aussi, ça arrive très souvent en NBA, de voir que ça vient d'un joueur, un leader, qui amène ça, qui tire les autres vers le haut. LeBron, ça fait des années qu'il le fait dans les équipes dans lesquelles il passe. Alors voilà, pour le meilleur et pour le pire, des fois ça se passe pas très bien, mais force est de constater que c'est quand même plutôt un excellent leader, un des meilleurs de l'histoire, LeBron James.
Oui.
Donc voilà, effectivement, force est de constater aussi que Kevin Durant n'est pas ce leader-là. On l'a vu avec les années, bah, t'en parlais Alex, notamment dans l'épisode de Trash Talk que vous avez fait. Et Booker, bah, on s'interrogeait cette saison et on a vu une réponse, moi, qui est très inquiétante de ce côté-là. Et je vais peut-être vous relancer, enfin, te redonner la balle, Greg, là-dessus. Moi, c'est vraiment ça, la leçon de cette saison. Et ce qui crée de l'inquiétude chez moi, c'est la première fois, moi, de mémoire, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais c'est la première fois que j'ai l'impression que Booker a régressé. Depuis sa draft sur une saison globale, parce qu'effectivement Hicham l'a dit tout à l'heure, il y a le problème de la défense où là pour le coup il a clairement régressé en défense. Il a un peu progressé en attaque parce qu'effectivement il fait plus de choses différentes, on va dire, dans sa palette que la saison précédente, mais en termes de leadership c'est catastrophique ce qu'il a montré cette saison, quoi. Et ça c'est un vrai retour en arrière et c'est un vrai une épée de Damoclès, on va dire, autour de toute cette idée de construction d'équipe. En fait, là, Ishbia a encore dit, ouais, Booker est là pour 10 ans et tout, mais est-ce qu'on a vraiment envie que Booker soit notre leader pour vu ce qu'il produit en tant que leader, en fait? Moi, je pose la question, c'est fou qu'on pose la question, en fait. J'aurais jamais imaginé poser cette question, ne serait-ce que l'été dernier, où justement Booker m'apparaissait comme le leader idéal pour cette équipe.
Ouais.
Là, c'est après cette saison, on a des gros doutes, quoi.
Mais c'est quand même fou que sur cette saison-là, après tout ce qu'on a vécu de la bulle à 2021, y compris jusqu'à l'échec face aux Mavs, on ait une sensation aussi abrupte vis-à-vis de Devin Booker, donc qui est chez nous depuis 2015, depuis la draft 2015. Et c'est la première fois où on a une sensation qu'un joueur de ce talent-là et de ce niveau-là, avec cette emprise-là sur une franchise, régresse à ce point sur le leadership. C'est-à-dire que même des joueurs qui avancent en âge, etc., qui ont des 35, 36, 37, 38, ils ne régressent pas sur le leadership. Devin Booker, cette saison, pour X ou Y raison, et comme en plus le mec est mutique en dehors des terrains, on ne saura jamais pourquoi, il est finalement devenu, honnêtement, une deuxième ou une troisième option dans une franchise. Est-ce que c'est définitif ou est-ce que ça n'est pas définitif? Ça, je pense qu'aucun de nous sera capable de répondre aujourd'hui, mais en tout cas c'est une vraie interrogation et puis surtout c'est une angoisse terrible parce que tu l'as dit Rod, l'avenir des Suns c'est Devin Booker et surtout il n'y a que Devin Booker, c'est-à-dire que c'est soit lui soit on le trade contre des picks de draft et on repart pour une reconstruction 10 ans après l'avoir drafté et avec une seule finale NBA dans les pattes, ce qui finalement dans l'histoire des Suns n'est pas si mal, mais ça c'est un autre sujet.
Ouais, c'est un tiers du palmarès de la franchise.
Ouais, exactement, mais c'est vrai que c'est compliqué et du coup ça pose directement, et on va enchaîner avec la partie 3 de ce podcast, mais ça pose la question pour la saison prochaine, c'est comment on résout cette équation qui est une équation de leadership, qui est une équation de coaching et une équation de cohésion, parce que on va le redire encore une fois, effectivement il manque le cœur de cette équipe qui est parti pendant les trades et notamment le trade de Kevin Durant. On a essayé d'en ramener un peu, hein. Je pense que c'est pour ça que ça ramène Ishmael Wainwright et que ça re-signe deux fois 10 jours puis jusqu'à la fin de saison Isaiah Thomas. C'est pour ramener un peu de cœur dans cette équipe des Suns. David Roddy aussi a fait beaucoup de bien sur le banc, c'était le premier à se lever, à agiter les serviettes, etc. Mais le reste de l'équipe paraît complètement désuni. Et comment on se projette sur la saison prochaine avec ça, c'est ce dont on va parler après un tout petit générique. Alors les enfants, on va passer à la partie 3 de ce pod et je vous propose tout de suite de revenir sur la conférence de presse de Matthijs Bia et de James Jones qui finalement nous assure de deux choses. La première, c'est qu'on part sur une saison 2024-2025 avec le même effectif ou presque que la saison 2023-2024 et ensuite que les ajustements qui devraient être faits dans cet effectif le seront autour des pics qui sont à notre disposition, donc le 22e tour, le 22e pick pardon, du premier tour de la draft 2024, donc aujourd'hui, et le pick 2031 qui sera disponible pour nous le soir de la draft. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex, je te lance. Comment tu te sens vis-à-vis de cette reconduction d'effectifs pour la saison prochaine?
Il n'y a pas le choix.
Ouais.
Quel est vraiment le choix?
Ouais, c'est
non
clair.
Mais franchement... Bon, on a vu Matthijs Bia, il est venu, il nous a dit oui, on est en super bonne, on est en excellente position. Il a dit we are in a great position. Il a dit, je l'ai trouvé bien optimiste, moi, le garçon.
Ouais.
Après, c'est son fric hein, et c'est son club. Donc, après tout, hein, il fait comme il veut. Il est arrivé, il a voulu tout casser, il a voulu aller très très vite et tout. Voilà, je pense qu'on est en plein dedans, vitesse et précipitation, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que entre Bradley Beal, son énorme contrat, son niveau de jeu qui fait pas rêver, sa no trade clause, franchement, c'est sûr que si les Suns le mettent sur le marché, ils vont pas en tirer grand chose. Ça va être très compliqué. On va avoir des équipes qui vont venir, mais qui vont pas vouloir, qui vont vouloir nous prendre des picks de draft qu'on n'a pas ou presque pas avec Bradley Beal, c'est très compliqué. Ou alors ils vont nous proposer des joueurs vraiment bas de gamme en fin de contrat. Enfin, ça va pas le faire. Mettre du Kevin Durant ou du Devin Booker sur le marché, j'ai vu les hypothèses tourner. Moi, je pense que c'est une erreur. Donc, je pense que côté James Jones et tout, ils sont arrivés un peu aux mêmes conclusions. Ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je vais même aller plus loin que le Big Three. Moi, je serais d'avis de garder le 5 majeur.
Donc, tu rejoins Matthijs Bia sur ce sujet. Parce qu'il vient de dire, il vient de dire qu'effectivement, le 5 majeur allait être reconduit. Donc, ça comprend Grayson Allen et Youssouf Nurkić.
En fait, on pourrait discuter autour du cas Nurkić. Mais ce qui est sûr, c'est que Grayson Allen fit assez bien. Grayson Allen, joueur de devoir... costaud, il a plutôt du mental, lui, normalement. Il rentre des tirs, il l'a montré, il peut défendre plusieurs postes et il n'a pas besoin d'avoir la balle en attaque. Franchement, on a besoin de ce genre de profil, les gars, hein, c'est obligatoire. Nurkić, c'est moins évident. Je me demande si ces Suns-là n'auraient pas plus besoin d'un pivot un peu plus rim-runner, plus athlétique. Même moins bon techniquement évidemment hein, que Nurkić qui est un bon joueur de basket avec un QI basket, une vision du jeu, une qualité de passe, enfin voilà tout ce que Nurkić sait faire, une grosse qualité au rebond également. Est-ce que ces Suns-là pourraient pas essayer de voir si en échange de Nurkić tu vas aller chercher je sais pas qui en fait hein, mais un pivot plus rim runner. Plus, bah, je sais pas, on a vu les Mavs, ils sont allés chercher Gafford. Je dis pas que Gafford, ça me fait rêver, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais voilà, je pense que le profil finalement pourrait presque mieux fitter que Nurkić. En fait, le souci Nurkić, c'est que il est pas assez, c'est pas assez vertical. Et alors, ça pose un problème, c'est qu'en fait, le vrai protecteur de cercle des Suns, c'est Kevin Durant, quoi.
Ouais, et il fait une bonne saison au contre.
Ouais, carrément, mais c'est un bon défenseur, hein, Kevin Durant. Attention.
Ouais, tout à fait. Ouais.
En plus, vu comment il est long et tout, et mobile, enfin voilà, évidemment. Mais je me demande quand même si, parfois, quand je vois certains matchs des Suns, je suis là, ah ouais, c'est trop bien les écrans de Nurkić, ah puis il est capable de faire la passe et tout, c'est intéressant. Mais un mec qui finalement se tabasse un peu plus, est un peu plus athlétique, un peu plus élancé, et qui va plus mettre à contribution. Les pivots adverses, les obliger à surveiller ce qui se passe dans les airs. En fait, quand tu joues les Suns, aujourd'hui, tu n'as pas tellement besoin de protéger ton cercle, en fait. Tu n'as pas tellement besoin, en fait.
Ouais,
tu entends Bradley Beal qui va faire un drive, et puis voilà, c'est tout. Et ça, c'est un peu trop facile pour beaucoup d'équipes. Alors là, contre les Wolves, c'était beaucoup trop facile pour eux. Mais même d'autres équipes, je pense, en fait, quand je regarde, vous avez vu les playoffs comme moi, la question qu'il faut se poser aussi, c'est... quelle équipe les Suns auraient-ils pu battre au premier tour? À part les Pelicans, bien sûr. Franchement.
Moi, voilà. Je pense que je donne les Lakers.
Pouh, Pouah, pas moi.
Mais attends, je suis pas sûr. Je suis clairement pas sûr.
Je pense qu'on se fait manger contre les Lakers avec une force inouïe. Mais, qui on battait en fait ?
Non, mais par contre, la question se pose. C'est, moi, quand je dis les Lakers, je suis pas rassuré. Quoi.
Bah, on était
c'était censé être Wolves, le meilleur match-up.
Oups.
On
était censé battre les Wolves.
Pas loin. Même par, ouais, voilà, même par millimètre. Donc, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Hein. C'est un peu. C'est
on
un
battait
peu
pas les Mavs. Je pense pas qu'on battait les Clippers.
C'est vrai.
Les Lakers, j'y crois pas du tout. Et après, évidemment, les Nuggets, non. Le Thunder, certainement pas. Je vois pas du tout.
C'est sûr que non. Les Mavs, les Clippers, je pense pas, effectivement. On peut avoir un doute sur les Lakers. Les Pels, moi, je pense qu'ils nous battaient, hein, pour le coup. Mais,
ah bon oh non, quand même.
Zion était blessé. J'avais oublié ce détail.
Ça comptait beaucoup pour
leur sweep aussi. Donc
la question de la match-up contre les Pelicans, c'est est-ce que CJ McConnell et Brandon Ingram, c'est si moins bon que Devin Booker et Kevin Durant.
Sur ce premier tour, effectivement, on peut se poser la question. Ouais.
C'est moche. Mais en gros, tout ça pour dire, voilà, après je vous laisse rebondir dessus, c'est voilà, en gros, il n'y a pas le choix. Financièrement parlant, c'est très compliqué dans les conditions actuelles du CBA de tellement modifier. Je rappelle que Phoenix va passer dans le second apron et que du coup, tu n'as pas de mid-level exception. Ça, je sais que Hicham, qui est un spécialiste du cap, là, va me reprendre peut-être là-dessus, mais il me semble que c'est ça que j'ai compris. Donc, quelle marge de manœuvre il a, en fait, à part changer les role-players de bout de banc? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut monter un trade avec Nurkic dedans, éventuellement, mais pour ça, il faudrait qu'il ait un petit pivot un peu jeune ou un pivot vieux, un peu plus rimrunner, qui fasse le boulot. Je vois même pas le trade, en fait. Je l'ai même pas en tête. J'ai pas d'idée.
Alors, je vais lancer Rod sur le sujet, tant qu'on l'a, parce que je sais pas jusqu'à quand on l'a, donc je profite de la présence de Rod. Mais Rod, est-ce que toi, tu te sens à l'aise avec la reconduction de cet effectif? Et s'il y avait quelques ajustements à faire, est-ce que tu as des petites idées peut-être à envoyer à Matibia?
Alors, c'est une vraie question aussi. Déjà, arrivons en cours de route de ce podcast, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la question du coach.
Non, pas encore.
Ça dépend beaucoup de ça aussi, dans une mesure importante. Parce que ça dépend de ton projet de jeu aussi, parce qu'effectivement il y a vraiment une question autour de Nurkic notamment, autour de Durant. Alors pour compléter un peu ce que t'as dit sur la protection de cercle, qui est un élément très très important, parce que finalement un peu contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a vu les Suns souffrir en attaque là sur ce premier tour de playoff, mais c'est surtout en défense en fait qu'on a été catastrophique face aux Wolves, parce que notamment effectivement ils ont réussi à trouver ce moyen-là. Alors je renvoie nos auditeurs notamment. Alors on peut renvoyer aussi à l'apéro que Trash Talk avait fait juste après le sweep, qui était très complet. Tout le boulot qui a été fait par les médias français là après l'élimination des Suns est parfait, quoi. Presque notre podcast est en trop alors qu'on est censé être les spécialistes. Mais donc je voulais parler du dernier épisode de Dunk Hebdo, le post-mortem sur les Suns, où en fait Tom explique ça, que les Wolves ont réussi à faire de Durant un défenseur on-ball, ce qui a fait qu'en fait mécaniquement, on va dire, ça l'a éloigné de la protection d'Arceau en second rideau, en roamer, ce qui faisait très très bien cette saison et ce qui est sa grande qualité, on va dire, dans la défense des Suns. Et donc, ça faisait qu'on s'est retrouvé dans la situation que décrivait Alex, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de protection de cercle du tout, en fait, passé Durant, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à chercher autour de ça, mais en même temps, ça dépend vraiment de l'identité de jeu. C'est-à-dire que si on vire Vogel pour prendre un coach très offensif, le nom de mec d'Anthony qui rôde comme ça, comme une ombre, je sais pas si ce sera le cas en fait, mais si c'est le cas, peut-être que ça peut valoir le coup de garder cet effectif là et de voir vraiment avec un coach qui a vraiment des idées originales sur le plan offensif ce que ça peut donner. Si l'idée c'est d'être un peu comme cette saison, de compenser le talent naturel présupposé, on va dire, de l'attaque, enfin de l'équipe en attaque, par la défense, bah oui, je pense qu'il faut changer de personnel, parce que Nurkic c'est compliqué en fait, enfin il a beaucoup d'autres qualités, mais pareil je vais un peu paraphraser le podcast de Dunk Hebdo, mais c'est un joueur à compromis en fait, Nurkic, finalement, et comme beaucoup de pivots en fait aujourd'hui en NBA, sauf que lui c'est pas le compromis rimrunner, justement c'est plutôt l'inverse, le compromis il y a du QI basket, il peut jouer au posto, distribuer un peu, même en défense il a des on va dire des capacités de lecture qui sont intéressantes loin du panier. curieusement. Donc bah c'est vraiment tout est une question de philosophie en fait selon moi. Bah je réponds un peu à côté. Je pense que si on enfin on va devoir de toute façon vu le CP garder le même groupe. Si on prend un coach offensif, à mon avis, il faut vraiment essayer de trouver un moyen de trader Nurkic cet été. Ce serait mon avis, mais sinon, franchement, je pense qu'il faut juste avoir un extrême soin sur les role players qu'on va pouvoir signer en contrat minimum parce que c'est notre seule marge de manœuvre. Donc, il faut vraiment pas se tromper comme on s'est trompé l'été dernier, en fait. Mais c'est vrai que pour le reste, même en termes de profil, c'est assez difficile à voir, quoi. Ça dépend aussi de qui va prendre sa player option. On va se retrouver a priori avec Gordon, Eubanks et Josh Okogie à nouveau dans l'effectif la saison prochaine. Donc, comme disait Alex, et comme on dit un peu depuis quelques mois maintenant, avec les choix qui ont été faits pour Matisse Bien, on est un peu bloqué, quoi, tout simplement, quoi.
Donc toi, tu penses qu'il faut changer de coach ? J'ai pas compris, Rodolphe.
Ah, moi, mon avis sur ça, franchement, oui, sachant que... Mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que ce qu'on a bien vu, là, ces dernières semaines, c'est qu'il a perdu le vestiaire. Entre guillemets, j'aime pas cette expression, parce que ça implique un peu que c'est de sa faute. Moi, j'ai l'impression que c'est la faute surtout des joueurs qui sont des leaders, quoi. Et des joueurs qui n'assument pas, en fait. Moi, il y a vraiment un problème. Alors, j'ai pas envie de parler de ça, là, dans cette discussion-là, mais pour moi, il y a un gros souci au niveau de la responsabilité qu'ont Booker et Durant dans cette équipe, en fait. Là, on a l'impression qu'ils se sont déchargés, que c'était pas de leur faute, quoi.
C'est un peu trop facile, quand même, non ?
C'est d'autant plus trop facile que toute l'équipe a été construite autour d'eux, en fait. Donc, autour d'eux, ça veut dire avec leur accord. Évidemment que Matisse Thybulle, depuis le début, toutes les décisions qu'il a prises depuis l'arrivée de Durant, c'est-à-dire toutes les décisions, vraiment toutes, conserver ou pas Monty Williams, prendre ou pas Frank Vogel ou un autre coach, conserver Chris Paul ou pas, prendre Bradley Beal, prendre Nurkic dans le trade, enfin tout. En fait, ils ont été
constitués. Grayson Allen, tout.
Grayson Allen, ils sont tributaires de tout, en fait. Et ils ont à aucun
moment. Yuta Watanabe.
Yuta Watanabe, effectivement, qui était le grand pote de Durant et tout machin. Donc, enfin.
On a vu, très utile, hein.
C'est ça. C'est un peu ça qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que, ça va être le fusible facile, et tout le monde le dit. Effectivement, il y a un peu ce côté-là. Vogel va être le fusible facile, mais ça risque pas du tout de régler tous les problèmes dans l'effectif. Et à l'évidence, quel que soit le coach qui va arriver, bon courage à lui, parce que c'est pas évident, en fait, de coacher ces deux stars. C'est ça qu'on a vu, en fait, cette saison. Et parce que, il y a des trucs, encore une fois, vous en avez peut-être parlé avant, mais c'est quand même délirant de se dire que en fait Kevin Young, qui est donc parti à BYU là, à l'université pour être coach principal, avait un plan de jeu qui était plus rim and trees, donc vraiment le basket, on va dire, pour singer un peu analytics, quoi. Et qu'en fait, c'est ces leaders qui lui ont vraiment tiré une balle dans le pied de son plan de jeu en disant non, on veut pas faire ça, notre force c'est le mid-range. Je veux dire, si ça se reproduit la saison prochaine et qu'on a un coach qui arrive avec des bonnes idées offensives un peu novatrices par rapport à ce qu'on a vu cette saison, et qu'en fait il se prend un Durant, un Booker qui lui disent bouf, non, moi j'ai pas envie, tu sais, moi mon truc c'est d'aller faire des mid-range là à 45 côté droit parce que c'est ma zone, et que t'as vu sur le graphique de Kirk Goldberry là, c'est la tête de Durant, c'est ma tête, là c'est mon zoo, c'est ma zone, enfin tu vois, genre super, c'est très intéressant en fait, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des titres, en tout cas là aujourd'hui je pense pas, pas avec un Durant de 36 ans en tout cas, je pense pas, quoi. Donc voilà, il y a une grosse remise en question en fait à avoir de la part des deux leaders, quel que soit le choix qui va être fait. Je pense pas que Vogel sera conservé. Je pense qu'effectivement, vu l'état actuel, il faudrait un nouveau coach.
Mais il faudrait quel profil alors?
Moi, je pense qu'il faut coach offensif. Moi, je suis vraiment fan du côté profil offensif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment.
Tu gardes Nurkic alors si tu prends un profil offensif.
Ouais, dans cette idée-là, effectivement, tu gardes Nurkic. Tu essayes d'épaissir un peu ton banc. Eubanks, c'est juste pas possible pour le coup en backup. Mais voilà. Quoi. Il faut arriver à trouver un modèle hyper offensif où l'option derrière Nurkic c'est un 5 small ball. Tu vois, pas forcément avec Durant en 5, mais avec un ailier fort en 5, enfin un joueur mobile, on va dire. Et capable de shooter de loin en 5. Donc en fait c'est ça, il faut rechercher du spacing dans notre recrutement si jamais on choisit cette option là de l'attaque à tout craint, quoi.
Hicham, voilà. T'as une idée toi de coach qui t'intéresserait?
Une idée de coach?
Est-ce que tu veux garder Vogel, Hicham?
Non, je veux pas garder Vogel, mais
est-ce que t'as un nom en tête?
Le problème
je pense que t'as un ou deux noms peut-être en tête. Moi j'en ai un ou deux aussi.
Ouais. Ah ouais, non, moi j'ai pas de nom comme ça en tête, mais je peux y réfléchir là rapidement, parce que je pense vraiment par rejoindre Rodolphe sur le fait que changer de coach là, faut que les joueurs soient convaincus, il faut qu'ils soient décidés à jouer ensemble. Moi j'ai un sujet sur la camaraderie, sur l'ambiance de groupe. Et alors, est-ce qu'un coach peut aider? Peut-être, Mais quel coach alors? Genre, est-ce qu'il faut aller chercher Mike Budenholzer? Un coach comme ça, là, un mec expérimenté, reconnu, respecté.
Moi, c'est mon deuxième nom. Ouais. C'est
qui le va arriver et qui va alors, dire.
Désolé de vous couper, les gars. Désolé de vous couper, hein. Mais le profil de Budenholzer, c'est quasiment le même que celui de Vogel, en fait. Un coach expérimenté, respecté, plutôt à profil défensif, qui a déjà un titre. Enfin, tu vois, il y a un truc. En fait, qu'est-ce qui nous garantit que ça va marcher avec Budenholzer? Enfin, tu vois, ça m'a.
Surtout que Bud avait un leader incroyable en Giannis. Et clairement, là, pour le coup, on ne peut pas questionner le leadership de Giannis Antetokounmpo.
Ah non, surtout...
Un des meilleurs leaders de la Ligue, de loin. Et s'il y avait un award du meilleur leader de la Ligue, je pense qu'il le prendrait plus qu'il a pris de MVP. Ouais, alors il y a Kenny Atkinson. Moi, j'ai un nom à vous jeter comme ça, c'est James Borrego. Alors, ce n'est pas un nom super clinquant parce que sa dernière expérience de head coach, c'était à la tête de Charlotte et ça ne s'est pas super bien fini. Par contre, sur le terrain, en termes de dessin tactique, de capacité à générer une attaque avec deux bouts de ficelle, c'était absolument merveilleux à voir. Et aujourd'hui, il fait un très bon boulot en tant qu'assistant. Je ne me souviens même plus dans quelle équipe il est, tellement je suis à la ramasse en ce samedi matin. Mais,
Il est aux Pelicans.
Et moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il prenne la suite parce que c'est vraiment un coach à vocation offensive et avec des idées très novatrices, voire même presque, j'allais dire, post-moderne. Il a un peu ce côté, je trouve, assistant génial à la D'Antoni qui arrive en 2004 ou 2005 aux Suns et qui fait passer un cap à l'attaque des Suns. Et moi, c'est un profil que j'aimerais bien voir sur le Suns. Par contre, effectivement, ça ne résout pas, comme tu disais, Alex, les problèmes de camaraderie, les problèmes de leadership et l'implication des deux cadres principaux dans les plans de jeu.
Ça peut aider aussi si ça joue mieux.
Ça peut aider.
Et quand ça joue mieux, tout va mieux normalement. Hein.
Et pour le coup, là, moi, par contre, Rod, je ne garde pas Nurkic. Je garde pas Nurkic pour la simple et bonne raison, c'est que je rejoins la déclaration de Grayson Allen en conférence de presse de fin de saison. Je pense que si on veut que cette équipe gagne, il faut que la balle reste dans la main des trois qui sont sur le terrain, donc Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant. Et je pense que Nurkic a presque trop la gonfle, et que sa position sur le terrain demande à ce qu'il y ait du mouvement. Or, clairement, mis à part Bradley Beal sur 15 matchs en fin de saison, ni Devin Booker, ni Kevin Durant ne montrent des efforts pour bouger entre les écrans, se déplacer entre les écrans, comme il le faisait à une époque. Devin Booker le faisait beaucoup pendant la bulle et en 2021-2022, et Kevin Durant l'a beaucoup fait dans la partie de sa carrière où il était élite, c'est-à-dire les finales avec Oklahoma City et ensuite les titres avec Golden State, où d'ailleurs on constate que son ratio de tir à 3 points pris et d'attaque de cercle sont nettement supérieurs à aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a les blessures, mais bon, sur les tirs à 3 points quand même, Kevin, si tu pouvais en prendre davantage, ce serait pas mal. Donc moi, c'est là-dessus que je compte. J'aimerais un mec qui est capable de dessiner des systèmes presque à 3, avec le quatrième et le cinquième joueur qui sont effectivement un rim runner profil un peu Nick Richards, ce genre de gars, mais avec, si on peut faire mieux que Nick Richards, on fera mieux que Nick Richards, évidemment, ou alors un profil de 5 un peu plus défensif à la Daniel Theis, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir 36-38% de shoot à 3 points et de faire des pick and pop, ou à l'inverse, de défendre correctement de l'autre côté du terrain. Moi, c'est voilà ce que je voulais faire, mais je vais lancer Hicham sur le sujet Nurkic, qui est finalement le premier sujet avant qu'on fasse cette grande parenthèse nécessaire à propos du coach. Hicham, toi, qu'est-ce que tu penses du profil de Nurkic? Est-ce que tu conserves? Est-ce que tu trades? Comment tu organises l'équipe l'an prochain?
Alors, entre ce qu'on veut et ce qu'on a, bon bah il y a un gouffre très souvent, et là, c'en est un. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait dans cette équipe, vu les profils, ça serait soit un profil de center, comme vous l'avez dit très justement avant, vertical, capable de finir au cercle et de protéger l'arceau de l'autre côté du terrain, ou alors un profil capable de vraiment espacer le terrain. Idéalement, on aurait eu Miles Turner, ça aurait été top, il a porté deux. Ces profils sont rares, sont pas trop sur les marchés des transferts, et c'est très compliqué, comme l'a dit Alex, avec le second apron dans lequel on est, de faire des trades, ce qui rend les choses vraiment très compliquées. Et je survolais un petit peu les contrats de pivots même si je sais que lors d'autres pods ultérieurs, on aura l'occasion de parler éventuellement de possibilités, d'élargir un peu le champ de vision. Mais bon, là, tout de suite, je vois très peu de candidats déjà sur le papier qui répondent aux besoins des Suns et qui soient tradables pour Nurkic. Hein, en gros, il faudrait trouver un pivot qui soit grosso modo entre 15,5 millions et 18,5 millions de dollars. Ça ne peut pas être plus, ça ne peut pas être moins. Ou alors, on fait un trade de 1 pour 2. Par exemple, avec, je prends comme ça un exemple de trade. Ça pourrait être éventuellement, si ça intéresse le Magic, ce que je ne pense pas forcément, mais bon, si ça intéresse le Magic, par exemple, ça peut être Nurkic contre Wendell Carter Jr. Et bah, ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui pourraient répondre en termes de salaire aux exigences d'un tel trade, mais bon, ça serait par exemple Wendell Carter Jr. et Jet Howard, le mec qui n'a pas joué, le fils de Juwan Howard, contre Nurkic, par exemple, et un pic. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça semble marcher en termes de CBA et de second apron. Et puis, avec Wendell Carter Jr., tu aurais un joueur, un pivot, qui répondrait un peu plus aux critères qu'on a évoqués, c'est-à-dire un peu plus rim protector et un peu plus vertical. Mais bon, qui a des problèmes de blessure aussi, etc. Donc, c'est très, très, très compliqué. Moi, je pense qu'il y a 95% de chance, sans exagérer, je pense, que Nurkic soit le pivot titulaire la saison prochaine. Il y a très peu de chances que c'en soit un autre, à mon avis. Et le problème qu'ont les Suns actuellement, c'est que en réalité, encore une fois, ils ont les mains attachées dans le dos et très peu de marge de manœuvre. Et du coup, à part répondre à la marge avec du transfert type Nassir Little plus choix draft pour récup un joueur de rotation qui répondrait à un besoin, et les besoins sont multiples, il nous faut un meneur, au moins un meneur remplaçant, il sort du banc, mais qui soit capable vraiment de mener le jeu. Il faut des profils wing athlétiques, surtout défensivement. Il faut un pivot remplaçant qui soit capable d'apporter une certaine dimension en défense et dans la verticalité. Donc ça fait beaucoup de besoins avec très peu de moyens. Voilà, on a une carte à jouer, Ishbia en a parlé, c'est vraiment les deux choix de draft, le 2024 et 2031, plus bah, le seul contrat vraiment tradable et qui sera à mon avis tradé, c'est Nassir Little, à 6 millions, presque 7 millions de dollars, donc ça veut dire qu'en échange, il faudra qu'on récupère...
T'en obtiens quoi de ça, Hicham? Bah, Nassir Little, il n'a pas beaucoup joué cette année.
Ah non, il vaut que dalle, Nassir Little, sur le marché. Mais en gros, tu es obligé de faire ce trade déjà le soir de la draft avant le pick pour ne pas avoir le cap-hold du draft pick qui rentre en jeu. Tu ne peux pas trader un 2 pour 1 avec le second apron dans lequel on est. Donc, tu es obligé de faire ce trade au maximum le soir de la draft juste avant le pick. Et en gros, tu trades pour un joueur qui va valoir entre 6 et 7 millions et demi. T'as quoi? Bah, c'est surtout les pics qui ont de la valeur. Donc, si tu échanges pic 22 plus choix 2031 non protégé, ça a de la valeur. Que Nassir Little n'en a quasiment aucune, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas une valeur négative, Nassir Little, dans le sens où son contrat est relativement faible et qu'il est encore assez jeune et qu'il a que deux, il me semble que deux années de plus. Pas trois, j'ai un doute, deux ou trois. Donc, c'est pas non plus une énorme liability, mais bon, il vaut que dalle. Ça, on est d'accord, Alex, il vaut que dalle. Mais tu pourrais avoir qui? Tu pourrais avoir, par exemple, un Nassir Little plus un choix de draft. Je sais que ça marche pas au niveau salaire, mais en gros, pour donner un profil contre un meneur remplaçant de type, on en a parlé toute la saison, TJ McConnell, on le voulait toute la saison, on le veut toujours. Bon, ça matche pas au niveau salaire. McConnell, il gagne un tout petit peu trop entre guillemets, il est à 8,8 millions je crois, mais voilà, en tout cas en termes de profil, c'est ce qu'on pourrait espérer, un meneur vet qui soit capable d'apporter en sortie de banc ou même titulaire s'il y a besoin. D'ailleurs, je pourrais vous lancer sur un autre sujet si vous voulez qu'on évoque le truc 5 minutes, mais quid de Bradley Beal, et est-ce que la meilleure chose à faire pour les Suns, ça serait pas d'avoir un meneur qui soit capable d'assurer un minimum en défense et de mener le jeu, et d'avoir un sixième homme de luxe à 50 millions de dollars en Bradley Beal. Bon, ça, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet qu'on fera dans la preview en septembre.
Voilà. Mais bon, vu que là, on va dans le mur, pourquoi pas changer de direction et c'est autre chose. Hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je ne sais pas, en fait. Je n'ai pas de nom en tête, Alex, là, tout de suite.
Moi, j'en ai quelques-uns. Je pense à Dylan Wright à Miami. Peut-être que Miami serait intéressé par
un choix de draft.
Bah écoute, si
il est free agent. Je crois qu'il est free agent.
Ouais, il est fait. Mais moi, c'est les free agents que je vise. C'est les free agents que je vise parce que je sais très bien que sur les trades, ça va être compliqué, quoi.
Ah oui, d'accord. Que du salaire minimum pour les.
Oui, par rapport à Little, je crois qu'en fait, ce que disait Tom, qui est vraiment le référent,
le boss
CBA,
on le salue Tom
CBA, c'est qu'en fait, on peut faire du 1 pour 2, mais il faut que ce soit en dessous de ce que gagne Nassir Little, quoi. Et sachant qu'effectivement, donc pour répondre à la question des HM, Nassir Little a encore 3 ans de contrat, donc jusqu'en 2027. 6 millions 7 l'année prochaine, 7 millions 2, 7 millions 7 après. Donc effectivement, c'est deux joueurs au minimum, quoi. C'est deux joueurs au minimum dans un deuxième contrat, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même très très limité ce qu'on peut obtenir en termes de joueur.
Alors faudrait qu'il soit strictement inférieur à 6 millions 75, vraiment strictement inférieur.
Un joueur, je pense qu'il faut que ce soit équivalent, ça convient. Mais par contre, plus, je crois que c'est pas possible. Il faudrait vérifier ça, mais.
Je crois que c'est plus ou moins 10%. Donc ça serait 7 millions et demi au max.
Au max, alors,
7 millions et demi, c'est par exemple un joueur signé avec la Taxpayer Mid-Level Exception l'été dernier.
Ouais.
Ou même l'été d'avant. Donc ce genre de joueur qui est actuellement encore sous un ou deux années de contrat et qui gagnerait dans ces eaux-là. Donc il y a des candidats, je pense, il faudrait regarder, je ne l'ai pas fait, mais il doit y avoir, j'imagine, plusieurs joueurs qui répondent à ce critère-là. Et comme nos besoins sont multiples, c'est-à-dire meneur, remplaçant, pivot, capable vraiment d'être titulaire et en cas de besoin, pivot remplaçant,
donc juste en arrière, on n'a pas besoin d'arrière, c'est bon.
Ouais, pas besoin d'arrière. Non, pas besoin d'arrière.
Je vais lancer Alex sur le sujet du meneur. Est-ce que c'est une question qui agite beaucoup les observateurs des Phoenix Suns, Alex? Est-ce que tu penses que les Suns ont vraiment besoin d'un meneur de jeu?
Non. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Je veux dire, je dis pas qu'on en a pas besoin, mais ça peut tout à fait fonctionner. Peut-être que l'organisation doit être différente. Là, moi, j'aime bien ce qu'a dit Hicham. Là, si on arrive à gratter un meneur de jeu qui défend et qui met ses trois, en gros, un 3-and-D du poste 1, quoi, mais qui ne sont pas vraiment des meneurs de jeu. Je pense que ces Suns devraient s'inspirer. J'ai bien dit s'inspirer. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont devenir, mais il faut que ces Suns s'inspirent de comment jouait le Heat de LeBron, Bosch et Wade. Mario Chalmers, je l'aime beaucoup, mais c'est un 3-and-D du poste 1. Il défend, puis quand il met ses 3, t'es content. Mais à aucun moment, il mène le jeu. Il mène pas le jeu. Il monte la balle, il la donne à Wade ou à LeBron. Voilà.
Ouais.
Quand c'est pas eux qui la montent.
Ils avaient des Shane Battier, ils avaient des Mike Miller, donc c'est le genre de
profil. Non, mais t'avais des role-players bien meilleurs. Et puis, je suis pas en train de comparer le leadership de LeBron James avec celui de Kevin Durant, bien évidemment, ou celui de Wade avec celui de Booker, évidemment.
C'est clair.
Mais dans la construction, t'avais un poste 1 qui n'était pas meneur de jeu, qui était là pour tenir le poste 1, mettre des 3 et défendre.
Ouais,
ça peut se trouver peut-être en NBA, mais c'est dans ce sens-là que je dis qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Peut-être que les Suns ont besoin d'un poste 1 de métier qui fasse le boulot en poste 1, okay, si Bradley Beal n'est pas assez motivé pour le faire, en gros. Mais un meneur de jeu, non, je ne pense pas que ce soit ça le vrai sujet. Je veux dire, Bradley Beal peut mener des pick and roll. Booker peut le faire, Durant peut le faire. Les trois savent grave faire des passes. On parle de trois joueurs qui ne sont pas des meneurs de jeu, qui tournent entre 5 et 6, 7, voire 8 passes par match. Je veux dire, il y a large la place pour jouer, faire tourner le ballon, avoir des systèmes qui sont mis en place. L'excuse du meneur de jeu, c'est un cache-misère. C'est exactement comme Frank Vogel, en gros. On va nous faire croire maintenant que Booker et Durant ne peuvent pas jouer s'il n'y a pas un vrai meneur de jeu. Moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, ça manque de 3-and-D autour d'eux. Nurkic n'en est pas un. Le seul 3-and-D autour d'eux, c'est Grayson Allen. Et on a vu que c'était parfait. Ça colle, ça fit. Mettez-moi une sorte de Grayson Allen en plus petit qui joue poste 1, quoi.
Ouais, il faut un point of attack defender. Et par contre, là où je diverge avec toi, Alex,
vas-y,
c'est que en termes de meneur, donc pure, entre guillemets, là où ça peut aider. Certes, Booker, Bill et KD sont capables de faire des passes. Moi, je les vois plus comme des secondary playmakers, des secondary passeurs, et pas des primary, dans le sens où on voit que toutes les équipes adverses ont compris le truc maintenant contre les Suns. C'est des pressings très hauts, des prises à deux qui parfois commencent limite dès la ligne médiane. Et du coup, ces joueurs-là sont pas vraiment en capacité, en compétence de délivrer tout de suite la première passe qui casse le truc, qui casse le jeu. Les équipes font pas ça contre Doncic. Pas autant et pas avec la même verve, parce qu'ils savent que Doncic est capable de punir, mais lui, Doncic, il a cette qualité en plus de pouvoir en une passe faire deux passes, de trouver tout de suite le mec à qui il faut la donner et d'arriver à la lui donner bien comme il faut sans avoir passer par un point de transition. Et nous, on n'a pas ça.
Booker et Bill, ils sont capables de faire cette passe, faut arrêter. S'ils sont pas capables de faire cette passe, bah c'est qu'ils ont pas le niveau en fait de leur
passe. Tu trouves pas qu'ils ont manqué, ils ont pêché à ce niveau-là cette saison,
moi, je
cette capacité à tout de suite casser la prise à deux avec la bonne passe.
Mais je pense pas qu'un meneur va forcément tout changer, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais l'attaque de Phoenix, la balle ne serait plus dans les mains de Booker ou de Durant? C'est compliqué.
Ils joueraient plus au football et peut-être plus dans leur qualité, justement.
Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur leur capacité à se mettre en mouvement. C'est des mecs qui regardent la balle quand ils ne l'ont pas dans les mains.
Vrai.
Ils la regardent. Du coup, tu peux pas demander à ces mecs, en plus avec l'ego qu'ils ont montré cette saison, un ego négatif, moi, je pense que ça va être difficile de leur demander de bouger entre les écrans et de faire du Ray Allen, tu vois. Ce qui serait génial parce que, finalement, la formation de base de Devin Booker à Kentucky, c'est celle d'un catch and shooter. Ce serait génial qu'il retrouve ses instincts-là de catch and shooter, parce que pour le coup, il serait élite et ça lui permettrait de travailler son shoot à 3 points qui, depuis 2 saisons, est en baisse. Moi, j'adorerais ça, mais j'y crois absolument pas. Et je rejoins Alex sur le fait que pour moi, un meneur dans le 5 majeur, ça ne fait pas sens, sauf si c'est un mec qui prend des shoots à 3 points générés par Bradley Beal et Devin Booker ou Kevin Durant, qui serait également à la passe.
Profil à la Mario Chalmers.
Profil d'Elon Wright. Hein, d'Elon Wright, dont je cite le nom et qui m'avait été envoyé par Tom, encore une fois, de Dunkebdo. D'Elon Wright, c'est ce profil-là. C'est-à-dire, c'est un mec qui, au niveau du hustle, est incroyable. On est vraiment sur un micro Jimmy Butler. Alors, évidemment, pas avec le même volume offensif, et qui est capable de rentrer des 3 points. Et ça, pour moi, c'est nickel. Maintenant, il faut aller le chercher, et puis il reste l'énigme du poste 5. Pour moi, il faut enlever Nurkic pour la simple et bonne raison, c'est que ça représente trop de playmaking, et ça supprime trop la balle de Durant, Booker et Bradley Beal. Et les seules fois où on voit que Nurkic fait des passes décisives, c'est systématiquement sur des cuts, des drives. Donc on a besoin de mecs qui veulent se bouger, le derch tout simplement, hein, allons-y, hein, quand ils n'ont pas la balle. Et ça, ni Kevin Durant ni Devin Booker n'ont semblé le vouloir cette saison.
Et puis pour en revenir aux histoires de meneurs, l'exemple de Doncic est intéressant, mais sauf que Doncic, il est pris à deux aussi haut comme ça, c'est parce que c'est le danger offensif numéro 1 des Mavs. Enfin, si tant est que tu considères Kyrie Irving moins dangereux, mais voilà. Je pense que Booker et Durant sont aussi dangereux l'un que l'autre. Ce sont deux joueurs formidables en attaque, donc ils seront toujours pris à deux. Même si tu rajoutes un poste 1, même si tu rajoutes Dylan Wright, quoi. Ils vont pas prendre à deux Dylan Wright, les gars. Hein. Ils vont le laisser shooter, au contraire. Faut qu'il les mette.
Du coup, ils se font user physiquement, tu vois.
Ils se font user. Mais ils ont qu'à lâcher la balle. Ils ont qu'à la lâcher plus tôt. Ils ont qu'à laisser Grayson Allen monter la balle. J'en sais rien, en fait. Il y a plein d'options. Donc pour ça, il faut un coach qui les mette en place et il faut des joueurs qui les acceptent et qui soient conscients de ce qui se passe dans un match de play-off.
On revient
à notre déception du départ. C'est quoi ce bordel, quoi? On dirait que Kevin Durant et Booker, ils ont découvert les play-offs, là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils ne savaient pas qu'ils allaient être pris à deux. Putain, les gars, ils ne savaient vraiment rien, alors.
Et puis c'est vrai que les prises à deux et Booker, ça fait des années et des années que c'est un je pense que ça fait des années aussi qu'ils bossent dessus, donc c'est assez particulier. Effectivement, je sais pas s'il y a une incapacité sur Durant. On voit que il y a une zone quand il baisse le ballon où il est vraiment en difficulté pour la remonter et tout machin, ou l'inverse effectivement. Donc c'est vrai que je sais pas trop, en fait. C'est super intéressant, en fait, tout le débat que vous avez eu sur ça. Et c'est à la fois super intéressant et super flippant, parce que ce que ça a dit en creux, c'est qu'on sait toujours pas, en fait, là au point où on en est, en gardant le même serpent, on sait toujours pas comment l'équipe doit jouer, en fait, optimalement. On sait pas si, justement, on préférerait que le ballon soit principalement dans le ballon. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des avis, on va dire, dans ce que vous avez dit, qui divergent un peu. Mais en fait, on n'est pas sûr, en fait, on sait pas quelle est la bonne solution. On a vu le Vogel et son staff tenter des choses un peu différentes cet été, cette année. Justement, t'en parlais, Alex, au niveau des montées de balles, on a vu Bill prendre un rôle plus de point guard sur la fin de saison, mais en fait les problèmes ont pas, enfin les problèmes de fond ont pas été résolus, et en fait on sait toujours, enfin, on n'est pas vraiment de direction, en fait, quoi.
Bah,
et
on a plein de secondary, on a plein de secondary playmakers, mais à mon sens on n'a pas un seul vrai primary playmaker.
Ça c'est vrai, peut-être, mais ça c'est vrai, hein. Mais comment tu l'obtiens, en fait, celui-là?
Ben ouais, il y a la solution Greg
pour James Harden.
non, il y a la solution Greg qui est d'avoir du NIF et de prendre le profil qui fait l'affaire, avec soit un salaire minimum ou alors.
Du coup, t'auras pas ton primary là.
Ah ouais, je suis d'accord avec Alex. Si tu prends, si l'idée c'est d'avoir ou même un meneur qui gère bien la balle, mais effectivement, ça sera pas une star, quoi. Les stars, c'est Booker, c'est KD et c'est Bill. Tant qu'on a Bill aussi, effectivement, dans l'effectif, bah, en fait, moi, pour moi, justement, l'option, c'est vraiment de tout miser sur Bill point guard, quoi. Et que lui, vraiment, bosse en fonction de ça, pour être le primary playmaker, quoi. Et avec la notion de sacrifice qu'il a eu un peu en fin de saison, de bah, mes tickets shoot, c'est pas grave. L'important, c'est que le jeu de l'équipe fonctionne, quoi.
Comme on dit au Maroc, tu vas demander à un âne d'être un cheval, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Il a tout dit, Jam. C'est exactement ça.
Oui, on en est là, tout à fait.
Où est-ce qu'on trouve des chevaux? C'est toute la question.
Ouais. En plus, on manque de chevaux, effectivement.
Chez Jokic.
Bon, les gars, je vous remercie beaucoup. C'était un podcast qui, je pense, était haut en couleur. on a senti qu'on avait besoin de dire toutes ces choses. Merci beaucoup, Alex, de ta présence.
Merci, les gars, pour l'accueil. Hein.
C'était vraiment très chouette de t'avoir encore une fois sur ce pod. C'était très chouette pour moi de pouvoir discuter dans ce podcast, je vais y arriver, pour la première fois de mes Vers les Hoops. Les gars, Rodolphe, bon fin de trajet. Je vais y arriver. Il faut vraiment que j'arrive à parler aujourd'hui parce que c'est terrible.
Bon fin de trajet, Rodolphe.
Bonne fin de trajet. J'ai bu que de l'eau, c'est promis. Bonne fin de trajet vers ta destination. Et puis, Hicham, on se voit très vite. L'été va être chaud dans l'Arizona, plus que jamais. On a beaucoup de choses à discuter. Je pense qu'on va se programmer peut-être un petit podcast mémoire de cactus, peut-être dans deux semaines.
pour les playoffs 2024.
Ouais, exactement.
Mémoire de cactus.
Exact.
Mémoire de cactus. Tout le monde se tire une balle à la fin du
cas. On fera pas cet épisode, c'est clair.
Non, soit ça va parler de Jason Kidd, soit ça va parler de Charles Barkley, on verra.
Ouais. Moi, j'ai promis que j'en ferai un aussi prochainement. Et moi, vous connaissez mon thème. Je le dis ou pas, mais voilà, moi,
Tu peux, vas-y.
Je ferai un mémoire de cactus dès que ça sera possible sur Grand Hill. 2007.
Ah ouais, très, très bonne idée.
C'est bien ça, ouais.
Super bonne idée.
Bonne idée, ça.
Et puis, on se retrouve ensuite sans doute pour des trade machines, ce genre de choses. Voilà,
il va peut-être se passer des choses, hein. Peut-être que d'ici deux semaines, Vogel est viré et qu'en fait le prochain épisode ce sera qu'est-ce qu'on met à la place de Vogel, non? C'est possible.
Comment joue-t-on avec Mike D'Antoni?
Mike D'Antoni en 2024.
Avant de se quitter, Mike D'Antoni ou Vogel? Vous prenez qui?
Ah, si Mike D'Antoni. Même s'il a l'âge cumulé d'Alex et moi, Mike D'Antoni.
À l'heure actuelle, tout est préférable, encore une fois, dans le sens où Vogel et son vestiaire ne s'entendent pas du tout. On va le dire comme ça. Je pense que tout est préférable à Vogel, donc oui, Mike D'Antoni, évidemment.
Ouais. Toi aussi, ouais. Alex?
Bah, ouais, j'ai le même raisonnement un peu que Rodolphe, quoi. Si le vestiaire n'est vraiment plus acquis à la cause de Vogel, comment veux-tu coacher des mecs qui t'écoutent pas? C'est pas possible, en fait, ça.
Pas possible.
Mais c'est de là à prendre Mike D'Antoni, je pense qu'il y a quand même un pas qu'il faut pas sauter, quoi.
Oui, s'appelle James Borrego, hein. on fait la pub, mais allons-y, hein. Vraiment, il faut qu'on s'amuse.
Yes. Ouais, pourquoi pas. Sinon, il y a qui va être dispo bientôt, là?
Un coach offensif, en tout cas, c'est sûr. Il faut jouer avec
Il y a Darvin Ham.
Darvin Ham qui est dispo. N'empêche, je pense qu'il il peut faire le taf. Hein.
Allez, on va en rester là pour aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup. À très bientôt.
Allez, ciao, les gars.
Bye.
Ciao. Back with the Remus. These boys are my sons like Phoenix. My city.
Rolex, see the shots that I took, wet like on book. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom!
That is just, oh.
Sun came out, I went about a drop top.